VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et bienvenue à l'édition du mardi 31 mars 2015. Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriac au micro. À la une ce soir, la présidentielle nigériane.
Le président sortant, Goodluck Jonathan, reconnaît la victoire de son opposant, Muhammadu Buhari.
Pour toute l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'alternance est possible.
Une large fenêtre sera consacrée dans cette émission à cette élection nigériane.
Par ailleurs, au Yémen, sous les feux de la guerre, la capitale Sanaa a subi les raids les plus violents depuis le début de cette offensive arabe contre les rebelles Houthis. Et dans moins de 10 minutes, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons sur le Nigeria. Goodluck Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. Le général Buhari est à la tête de près de 4 millions de voix et a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États. Nous essayons d'entrer en contact avec notre envoyé spécial à Abuja, Anne-Luc. En attendant,
une réaction au Nigeria. Timothée Donangmaï a joint Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos. Elle est originaire du nord Nigeria.
Je suis très contente pour ce changement parce que il y a longtemps qu'on a besoin de ce sorte de changement. Et ce changement est venu. On est très, très heureux dans toute la ville, surtout à Lagos ici. On est en train de célébrer depuis ce jour. On était au courant que c'était lui qui est en train d'emporter la victoire. Et on a besoin de ce changement-là.
Donc, quel changement le général Buhari apportera selon vous?
La corruption, il va éradiquer la corruption, la pauvreté et la guerre de Boko Haram. Le Nord-Est en a assez marre. Les gens ont été tués pour rien. Et maintenant, on a besoin que ils nous secourent, quoi. Surtout ceux qui sont du Nord-Est. On a besoin de la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, tout va marcher. Surtout l'économie du Nigeria sera vivant encore. Parce que tout était écrasé. Il n'y a pas de commerce au Nord-Est. Tout est écrasé, il n'y a pas d'espoir, la pauvreté, les gens se sont sauvés du village, les paysans ne peuvent même plus cultiver la terre parce qu'ils ont peur que les Boko Haram vont les attaquer à n'importe quand. Alors, les gens se sont enfuis dans leur village. Maintenant, les gens sont en train de regagner. Et comme la nouvelle est venue que c'est Buhari qui a emporté, il y aura l'espoir.
Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos.
Oui, on peut ajouter qu'ici à Washington, la porte-parole du département d'État, Julia Straker, a félicité le peuple nigérien au nom du peuple américain, et là je paraphrase, pour avoir exprimé son choix librement et le succès de cette élection. Julia Straker a souligné les rapports des observateurs internationaux sur le déroulement du scrutin.
Voilà, et donc nous avons en ligne notre envoyé spécial à Abuja, Anouk. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, Goodluck Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie?
Oui, mais les gens, ici, je suis au siège de la APC, ici on fait la fête, et on fait la fête un peu partout dans le nord du pays, où il y a beaucoup de soutien pour l'opposition. Mais en général aussi, moi, je ressens vraiment un soulagement. Les gens se sentent un peu rassurés que peut-être cette période post-électorale va être pacifique, va être calme. Peut-être on attend toujours le discours du président de l'opposition et après le discours du Buhari. Mais je pense que les gens, ils ont beaucoup d'espoir que ça va finir bien.
Anne, comment peut-on expliquer la défaite de Jonathan Goodluck? C'est très rare en Afrique de voir un président sortant perdre des élections.
Oui, c'est vrai, mais je pense que dans le cas de Nigeria, il faut regarder les circonstances. On a Boko Haram, la rébellion au nord-est qui a vraiment intensifié, surtout dans ces dernières 2 années. On a aussi l'économie qui a beaucoup de problèmes maintenant. Et je pense que l'APC, l'opposition, a aussi leur stratégie, c'était de transformer cette élection en référendum sur 16 ans du règne du parti au pouvoir du PDP. En fait, alors, je pense qu'ils ont essayé. Ils parlaient beaucoup de changement, on a besoin de changement. Et moi, sur le terrain, même quand j'ai parlé avec des supporters de l'APC, ils me disaient, oui, on en a assez du PDP. Ils nous ont rien fait. On en a assez, ça fait 16 ans, et regarde nos vies. Alors, je pense que cette stratégie, ça a marché avec ça a résonné avec les Nigériens.
Merci Anouk, c'était notre envoyé spécial à Abuja. Le comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le nord du Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés. On fait le point avec Issia Kaba.
Abou Walid Sahraoui, du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a revendiqué l'attaque dans un bref entretien téléphonique avec un journaliste de l'AFP à Bamako. Joint par VOA Afrique, Valérie Mbaonana, porte-parole du CICR au Mali, a indiqué que l'organisation humanitaire suspendait tous ses mouvements dans le nord du Mali dans l'attente de clarifier les circonstances de cette attaque et de prendre les mesures qui s'imposent. En revanche, les activités dans les centres urbains restent opérationnelles. L'attaque a eu lieu entre Gao et Ansongo et visait un camion du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui devait rejoindre Niamey au Niger pour apporter du matériel médical pour l'hôpital de Gao. En février 2014, 5 humanitaires maliens, dont 4 membres du CICR, avaient été enlevés alors qu'ils reliaient Kidal à Gao, leur base. Leur rapt avait été revendiqué par le Moujao. Pour mémoire, le Moujao est un des groupes alliés d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et début 2013.
Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, témoin dans l'enquête française sur un financement libyen présumé en faveur de l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy. D'après son entourage, cité par l'AFP, ATT a été auditionné aujourd'hui à Dakar. Exilé dans la capitale sénégalaise depuis son renversement en avril 2012, il avait été convoqué par la police judiciaire sénégalaise dans le cadre d'une commission rogatoire française.
Blaise Compaoré, dans le collimateur du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, l'ONG demande la traduction devant la justice de l'ancien président du Burkina Faso pour des assassinats commis durant des émeutes ayant abouti à sa démission fin octobre. C'est ce qu'indique l'AFP.
À Kampala, les funérailles de John Kagezi auront lieu demain. La procureure en charge du procès des attentats de Kampala de 2010 a été abattue lundi soir, Nicolas Pinot.
Les assassins de John Kagezi ne lui ont laissé aucune chance. Des individus à moto ont suivi lundi soir la directrice adjointe du ministère public ougandais et l'ont abattue froidement dans son véhicule. Ses 3 enfants qui étaient à bord n'ont pas été blessés. C'est ce qu'a expliqué le chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, dans un communiqué. Madame Kagezi était au cœur du procès de l'année dans la capitale ougandaise, celui de 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, qui avaient fait 76 morts. Ces attaques avaient été à l'époque revendiquées par le groupe somalien Shabab. Ce procès a été suspendu ce mardi. Younoussou Kassirivou, un avocat de la défense, a indiqué que ses confrères et lui s'entretiendraient avec le juge ce mardi pour décider de la suite du procès. Les accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtres. Tous, sauf un, sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010 à Kampala, 2 kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs dans 2 établissements qui retransmettaient la finale de la Coupe du Monde de football.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Yémen, sous les feux de la guerre, la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite intensifie ses bombardements aériens. La capitale, Sanaa, a subi avant l'aube les raids les plus violents depuis le début de cette offensive contre les rebelles Houthis, débutée il y a 6 jours. Le pays semble être au bord de l'effondrement total, estime l'ONU. On fait le point avec Michel Joseph.
C'était horrible. De fortes explosions ont résonné toute la nuit, témoigne un habitant de Sanaa, cité par l'AFP. Ces bombardements d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine. Ce corps armé, resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, est aujourd'hui allié aux Houthis, les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent de vastes régions du pays. Téhéran, au cœur des tensions diplomatiques nées de ce conflit, alors que Riyad accuse l'Iran de soutenir l'insurrection chiite. Les deux pays qui se renvoient la balle et se reprochent mutuellement de déstabiliser le Yémen. Le feu de la guerre poussera toute la région à jouer avec le feu. Les opérations militaires doivent s'arrêter immédiatement, estime le ministère iranien des Affaires étrangères. En attendant, les victimes s'accumulent. L'ONU compte des dizaines de civils tués au cours des 4 derniers jours.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique.
Et maintenant, la Minute Éco avec
Jean-Roger Billon.
Le président du conseil d'administration de la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom, Zola Tsosi, a démissionné. L'entreprise publique était au creux d'une vague de critiques en raison de la multiplication des délestages. Selon le quotidien économique Business Day, M. Tsosi avait perdu la confiance de ses pairs et risquait un vote de censure. Il y a 2 semaines, le conseil d'administration d'Eskom avait ordonné la suspension de 4 dirigeants, le temps de mener l'enquête sur les errements et la gestion de la compagnie. 2e édition du Katanga Business Meeting en République démocratique du Congo. Ce sera du 28 au 30 mai 2015. Cet événement a pour objectif d'offrir un espace de rencontre pour les petites et moyennes entreprises et celles de grande taille afin d'engendrer des opportunités concrètes d'affaires et de favoriser l'émergence d'un réseau professionnel polyvalent et complémentaire. Le KBM, comme on l'appelle, organisé par des privés avec l'appui du gouvernement de la province du Katanga, offre un espace d'exposition de 7000 m² entièrement mis à la disposition des 5000 visiteurs et 160 entreprises attendues sur le salon. Et le groupe informatique américain IBM a annoncé ce mardi son intention d'investir 3 milliards de dollars sur 4 ans dans une nouvelle division consacrée aux créneaux jugés très porteurs des objets connectés à Internet. Il s'agit des réfrigérateurs, bracelets pour le sport, brosses à dents, fourchettes, biberons, vêtements. Un nombre croissant d'objets du quotidien intègre l'électronique et collecte des informations sur l'utilisateur ou son environnement qui sont ensuite stockées en ligne. Selon les experts, cela pourrait constituer le prochain moteur de croissance dans le secteur technologique après les tablettes et les smartphones.
La Minute Éco, Jean-Roger Billon, merci.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Le Bénin n'a plus de fédération de football.
Le gouvernement a retiré l'agrément à la Fédération béninoise de football. Le point tout de suite avec Élisée Ungpatine.
Le football béninois plonge de nouveau dans une crise. Où est-il sauvé de la malorganisation de ses dirigeants? C'est la question que se posent les amoureux du Cuiron au Bénin suite à la décision du gouvernement de retirer à la Fédération béninoise de football son agrément. C'est au Conseil des ministres que cette décision a été prise. Et 3 points ont été évoqués, notamment la crise qui secoue depuis toujours cette fédération et surtout la suspension des équipes des jeunes par la CAF. D'ailleurs, une commission sera installée pour connaître les dessous de cette suspension. Dans sa stratégie pour régler cette situation, le gouvernement a promis mettre en place un comité national de réconciliation ou de normalisation chargé de préparer les grandes assises effectives de la grande famille du football béninois et de prendre de nouvelles orientations devant créer un nouveau cadre de développement du football dans le pays de Yayi Boni. Tout ceci avec l'appui des instances du football mondial CAF et FIFA. Ce qui a d'ailleurs obligé les membres du comité exécutif de cette fédération de se réunir ce lundi pour étudier et apprécier la teneur de cette décision. Précisons que en froid, depuis un bon moment avec le patron des sports, Safi Wafo, la Fédération béninoise de football avec son président, l'honorable Augustin Aronwebla, ne pourront plus exercer leurs fonctions. La réaction de la FIFA est vivement attendue. Boycon, Élisée Ungpati, La Voix de l'Amérique.
On joue ce mardi en Europe.
Le vainqueur du match Israël-Belgique se hissera en tête du groupe B des qualifications pour l'Euro 2016. Coup d'envoi tout à l'heure à Jérusalem. En amical, très critiqué à la suite des mauvais résultats des Oranges depuis sa prise de fonction l'été passé, le sélectionneur des Pays-Bas Gus Hiddink s'attend à rencontrer des Espagnols revanchards. C'est ce soir à Amsterdam, on se souvient évidemment lors de la Coupe du Monde au Brésil de la gifle infligée à la Roja. Victoire des Pays-Bas, c'était 5-1 à l'époque.
« Merci à Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgan Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Idrissa, le Nigeria.
Oui, good luck. Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. Le général Buhari est à la tête de près de 4 millions de voix et a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du professeur Oudou Ayouba, enseignant de relations internationales à l'université Amadou Bello de Zaria, dans l'État de Kaduna.
Oui, cette alternance, c'est une bonne chose pour la démocratie au Nigeria. Ce n'est pas vraiment par rapport à la défaite du président Jonathan, mais c'est par rapport à la démocratie au Nigeria. Avec cette victoire-là, maintenant, les leaders politiques, les partis politiques doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est ça le plus important, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple l'a démontré avec cette élection.
Le président Jonathan a rapidement félicité son adversaire, le général Buhari. Est-ce qu'on s'attendait à un dénouement aussi rapide?
Oui, tout à fait. Il y a eu, avant les élections, une rencontre entre Jonathan et Buhari où un pacte de paix a été signé. Donc les deux parties se sont engagées à maintenir la paix, hein, que soient les résultats. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça.
Malgré ces engagements, il y a eu quand même des tensions dans l'état de Rivers où on a dû imposer le couvre-feu.
Tout à fait. Vous savez, il n'y a pas d'élection parfaite. Donc, il y a eu des réactions, des manifestations dans l'état de Rivers parce que c'est les partisans de l'APC qui ont protesté contre ce qu'ils disent. Il y a eu des fraudes. On a empêché les membres, les partisans de l'APC de voter. Et puis, là, ils ont protesté.
Est-ce qu'il faut voir une signification particulière au fait que ce soit un nordiste maintenant qui va diriger le Nigeria?
Oui, c'est pas vraiment le problème du nord, du sud, de l'ouest. Non, c'est un problème de changement. Et ce nordiste-là, ça fait plusieurs fois qu'il conteste. Je pense que ça fait 4 fois. Hein, 4 fois qu'il participe aux élections et il a perdu 4 fois. Ah oui, je pense 4 fois. Bon, voilà, cette fois-ci, il a gagné. Mais le fait le plus important, c'est que même lui, s'il n'arrive pas à travailler comme il faut, hein, il sait que dans 4 ans, il va partir. Et, hein, c'est ça le plus important.
Eh bien, c'était le professeur Oudou Ayouba, enseignant de relations internationales à l'université Amadou Bello de Zaria, dans l'état de Kaduna.
Autre réaction, hein, celle du professeur Akanbi Ilupeju de l'université de l'état de Lagos.
C'est une renaissance parce que jamais nous avons eu cette situation dans le pays où le président en exercice va perdre l'élection. Et quand on a dit changer la situation politique, ce n'est pas parce que tout le monde aime vraiment le général Buhari. C'est qu'on veut un changement, on veut une situation où le président en exercice verra qu'il a le mandat de la population nigériane et que quand il y a des plaintes, qu'il s'occupe de ça et ne pas penser qu'ils ont un pouvoir central pour intimider les gens et que les gens qui sont autour du président, ses collaborateurs, cessent de tromper son imagination en le faisant savoir que tout marche bien. Si le président Goodluck Jonathan avait entrepris les démarches qu'il avait entreprises il y a 6 semaines, dès le début de son mandat en 2011, je pense que la situation serait très, très différente parce qu'il serait plus proche de la population et il verra vraiment que ses collaborateurs les plus proches le trompaient.
C'est le général Buhari qui va prendre les choses en main. Quels sont les défis qui l'attendent?
C'est la discipline. Le mot, c'est la discipline. Dans tous les secteurs, dans la gérance administrative, la gérance politique et la gérance économique. C'est tout l'attente d'un Nigérian. Il l'a fait déjà une fois. Simplement, mentionne le nom Buhari, fait savoir qu'il y a quelque chose de discipline qui doit se passer. Et voilà pourquoi la population nigériane née avant 1993 sait que le général Buhari est l'homme de sa parole, l'homme discipliné, bien discipliné. Et il a su être politicien parce que les trois autres moments où il a tenté la présidence, il a échoué parce qu'il avait dans lui le sang militaire. Dans sa pensée, c'était une pensée militaire, autoritaire. Il a su comprendre qu'il fallait une alliance avec le Sud-Est. Jamais été dans une alliance viable ou fiable avec le Nord. Jamais. Je pense que cette victoire n'est pas seulement pour le Nord, le Nigeria. C'est surtout pour l'Ouest que le président sortant a beaucoup délaissé. Vous savez, à Lagos, on lui avait donné 1 200 000 et quelques voix en 2011. Mais il a négligé la partie Yoruba du Nigeria. Et c'est là qu'il va regretter le plus. Et puisque le président Obasanjo lui avait averti plusieurs reprises, il n'a pas entendu. C'est là même son point faible.
Le professeur Akanbi Ilupeju de l'Université de l'État de Lagos.
Alors, on continue avec le Nigeria. Maintenant, qui est Muhammadu Buhari, que donc le président sortant Jonathan Goodluck, Jonathan a appelé pour le féliciter de sa victoire. Alors, il est originaire de l'État de Katsina. Le général à la retraite, Muhammadu Buhari, a eu une longue carrière militaire, prenant part notamment à la guerre du Biafra. Il faisait partie des militaires menés par le général Murtala Mohamed, qui avait renversé et tué en 1966 le général Ironsi, dirigeant militaire autoproclamé. Il montra ensuite au premier plan en 1983, en prenant la tête du coup d'État contre le président Shehu Shagari. Pour un bilan du régime Buhari, Timothée Donangmaï a joint Ali Buhari, aucun lien familial avec le général, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Nassarawa, à Kefi, près d'Abuja.
Le général Buhari est un ancien dictateur qui a renversé les premier gouvernement civil de la deuxième république du Nigeria en 1983. Il a régné pendant 18 mois seulement et il fut lui aussi renversé par le général Ibrahim Babangida. Donc, durant le parcours du général Mohamed Buhari au pouvoir, il a pu instaurer cette image d'un personnage qui voudrait vraiment laisser son nom dans l'échiquier politique africain en lançant ce qui s'appelle au Nigeria le war against indiscipline.
La guerre contre l'indiscipline. Alors comment se traduit concrètement cette politique?
La guerre contre l'indiscipline au Nigeria a été un succès écrasant. Il a pu restaurer la discipline au sein de la population nigériane. Cela s'est traduit par la conviction, l'exécution aussi des narcotrafiquants sur le plan économique. Le général Buhari a pu mettre son impression sur le phénomène de la corruption au Nigeria en éliminant presque quasi totalement le phénomène de corruption au sein de la vie politique nigériane. Donc, c'est quelqu'un qui peut redonner l'espoir aux Nigériens. Au moment où la corruption a atteint un niveau très élevé avec les partis au pouvoir, à savoir les PDP.
Mais c'est au plan des libertés que le bilan du général Buhari est plutôt sombre. Lui-même a dit qu'il ne peut pas changer le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine?
Il est bien reconnu qu'il était un dictateur en tant que militaire. Mais maintenant, il faut savoir que le Nigeria suit un processus démocratique. Lui seul ne peut pas gouverner le Nigeria. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, ce qui est l'équivalent des congrès en Amérique. Donc, toutes les lois qui sont promulguées doivent passer par le congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc, les phénomènes de dictature, on peut l'écarter cette fois-ci parce qu'il s'est converti en démocrate. Donc, il va gouverner le pays avec un moyen peu tendre, mais en restant tout fermement opposé à la corruption.
C'était Ali Bouhari, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja, au Nigeria.
Ce mardi à 19h, temps universel, en lieu et place du magazine économique, VOA Afrique vous propose une émission interactive sur la présidentielle au Nigeria. Comment vivez-vous ces élections? Qu'attendez-vous du futur président du géant d'Afrique? Rendez-vous à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Voilà, Morgane, je crois que bon, l'actualité est dominée, comme on le voit, par le Nigeria, mais il s'est passé autre chose aussi dans le reste du monde.
Oui, dans le reste du monde, à Lausanne, notamment en Suisse, les négociateurs de l'Iran et des États-Unis et des autres membres du P5+1 travaillent d'arrache-pied pour arriver avant minuit à un accord cadre sur le nucléaire iranien, mais les officiels avertissent d'ores et déjà que cet accord pourrait ne pas être tout à fait ce qu'on espérait avant l'expiration du délai. Réunis depuis une semaine, les négociateurs tentent de sortir de l'impasse, mais ils continuent d'achopper sur des questions concernant les restrictions sur la recherche dans le domaine de l'enrichissement de l'uranium, la durée d'un éventuel accord et le chronogramme de la levée des sanctions et de quoi faire en cas de violation de l'accord par l'Iran.
Et le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé mardi que la ville de Tikrit avait été reprise aux djihadistes à la faveur de la plus vaste opération lancée par les forces irakiennes depuis l'offensive du groupe contre le groupe État islamique en juin dernier. Les forces irakiennes sont parvenues dans le centre-ville, ont levé le drapeau et sont maintenant en train de faire place nette à Tikrit, a précisé à l'AFP le porte-parole du chef du gouvernement, Rafid Djabouri.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap, music. Et notre sujet de cette semaine, comment éviter les conflits avec sa belle famille? Comment améliorer la relation avec sa belle famille? Ah, faut pas rater ce sujet les amis. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, c'est le 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. C'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Africa. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est.
Je ne suis qu'un Africain.
VOA Afrique, quelques rappels des grands points d'actualité. Actualité principale de la journée. Good Luck Jonathan reconnaît la victoire de Mouhamadou Bouhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. Le général Bouhari a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États.
Le comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le nord du Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés.
Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, témoin dans l'enquête française sur un présumé financement libyen en faveur de l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy. D'après son entourage cité par l'AFP, ATT a été auditionné aujourd'hui à Dakar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, nous venons de vous rappeler quelques grands points de l'actualité à la mise en onde ce soir.
Michel Joseph, Morgane Guiriec et Idrissa Seydoudia à la présentation. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.